Le pèlerinage. Les mérites de la Mecque et de la mosquée sacrée. La mosquée sacrée se trouve à la Mecque, Mecca al-Mukarrama, à l'ouest de la péninsule arabique, et elle jouit en islam de nombreux mérites dont, premièrement, elle renferme la sainte Kaaba. La Kaaba est une construction de forme à peu près cubique. Elle se trouve au milieu de la mosquée sacrée de la Mecque. Elle est la Qibla, la direction, vers laquelle se dirigent les musulmans quand ils font la prière ou autre pratique religieuse ordonnée par Allah. Elle a été bâtie par Ibrahim, Abraham, l'ami intime d'Allah, et son fils Ismaïl, que la miséricorde et la bénédiction divine soient sur eux. Ils l'avaient bâtie sur ordre d'Allah. Elle a été plusieurs fois reconstruite. Allah, qu'il soit exalté, a dit:
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
Et rappelle-toi quand Ibrahim et Ismaïl construisaient les fondations de la maison de la Kaaba. Il disait: « Seigneur, accepte ceci de notre part. Certainement tu entends et connais parfaitement toutes choses. » Verset 127 de la sourate La Vache. Le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, a participé, en même temps que les tribus arabes de la Mecque, à la pose de la pierre noire à son emplacement quand ils avaient renouvelé sa construction. Deuxièmement, elle est le premier lieu de culte édifié sur terre. Quand le compagnon Abu Dhar el-Ghifari demanda au prophète, paix et salut d'Allah sur lui: « Ô messager d'Allah, quel temple fut édifié en premier sur la terre ?» Il répondit: « La mosquée sacrée de la Mecque. » Il redemanda et ensuite, il lui répondit: « Le temple de Jérusalem. » Abu Dhar questionna encore: combien de temps s'est écoulé entre les deux édifications? Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, répondit: 40 ans, mais excepté ces deux mosquées, en quelque lieu où tu te trouves au moment où le temps de la salat arrive, fais-y alors la prière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Troisièmement, la récompense des prières qui y sont faites est multipliée. En effet, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: une prière dans ma mosquée que voici, c'est-à-dire la mosquée de Médine, est meilleure que 1000 prières accomplies en n'importe quelle autre mosquée, à part la mosquée sacrée de la Mecque. Une prière dans la mosquée sacrée est meilleure que 100 000 prières faites en un autre lieu, autre que cette mosquée-ci. Hadith rapporté par Ibn Majah et Ahmed. Quatrièmement, elle est un sanctuaire proclamé sacré par Allah et son messager. Allah, qu'il soit exalté, a dit:
Innama umirtu an a'buda rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin.
Il m'a été ordonné d'adorer le Seigneur de ce territoire de la Mecque, celui qui l'a rendu inviolable et sacré, lui à qui appartiennent toutes choses, et il m'a aussi été ordonné d'être musulman, soumis à Allah. La Mecque a donc été rendue sacrée par Allah, de sorte qu'il est interdit d'y faire couler le sang, de s'en prendre à quelqu'un dans son enceinte, d'y chasser ou de couper quoi que ce soit de sa végétation, ni arbre, ni herbe. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: la Mecque a été rendue inviolable et sacrée par Allah lui-même, non par les gens. Il n'est donc pas permis à quelqu'un qui croit en Allah et au jour dernier d'y faire couler le sang ou de couper une branche d'un de ses arbres. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cinquièmement, elle est pour Allah et pour son messager Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, la meilleure contrée qui soit. Un compagnon a dit « J'ai vu le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, alors qu'il était sur sa monture immobile à El Hazwara, quartier de la Mecque. Il disait « Je jure par Allah que tu es la meilleure terre qu'Allah ait faite et celle qu'il aime le plus. Si je n'avais pas été expulsé de toi, je ne t'aurais pas quitté. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Sixièmement, c'est à sa maison sacrée, à l'exclusion de tout autre lieu, qu'Allah a prescrit de faire le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. En effet, Ibrahim, sur lui la paix, a appelé les hommes à faire le pèlerinage. Ils vinrent à lui de toutes parts, les prophètes aussi vinrent y accomplir le pèlerinage, comme le messager d'Allah nous en a informé. Allah exalté soit-il, a dit, évoquant l'ordre qu'il fit à Ibrahim,
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
Et fais un appel aux hommes pour qu'ils fassent le Hajj. Ils viendront alors à toi en marchant ou sur des montures endurantes qui arrivent depuis des contrées lointaines. Verset 27 de la sourate Le Pèlerinage. La signification du Hajj. Le Hajj, c'est se rendre à la mosquée sacrée d'Allah pour accomplir les rites du pèlerinage qui consistent en pratiques et paroles héritées du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, comme le fait de se mettre en état de sacralité, ihram, de faire les circumambulations sept fois autour de la maison sacrée, trotter sept fois la distance qui relie les deux monts d'Safa et d'Al-Marwa, de camper à Arafat, de lapider les stèles à Minen, Mina, etc. Il comporte de grands bienfaits pour les hommes, comme la proclamation de l'unicité d'Allah, le grand pardon dont bénéficient les pèlerins, le fait que les musulmans fassent connaissance les uns avec les autres, l'apprentissage des prescriptions de la religion, etc. Le temps du Hajj. Les rites du Hajj se concentrent entre le 8e et le 13e jour de Dhul-Hijja, qui est le 12e mois lunaire du calendrier musulman. Qui doit faire le Hajj ? Pour que le Hajj soit obligatoire, il faut que le musulman soit juridiquement apte, mukallaf, et qu'il ait les moyens. Le sens de mukallaf est, comme cela a été vu précédemment, qu'il soit sain d'esprit et majeur. Le sens de istita'a, avoir les moyens, est la possibilité de faire le déplacement jusqu'à la maison sacrée par des voies justes et légales, pouvoir accomplir les rites du Hajj sans une trop grande difficulté, soit supérieure à la difficulté habituelle d'un voyage, la sécurité pour sa personne et ses biens, que l'argent nécessaire au Hajj vienne s'ajouter à celui qui couvre ses besoins essentiels et les frais de ceux dont on a la charge. Les différentes situations du musulman au regard de la capacité à faire le Hajj. Premièrement, il y a le cas où il peut faire le Hajj lui-même, c'est-à-dire qu'il est capable d'arriver à la maison sacrée par lui-même en toute autonomie sans devoir supporter une difficulté excédant la difficulté normale et qu'il possède suffisamment d'argent à cet effet. Il doit alors s'acquitter lui-même de l'obligation du Hajj. Deuxièmement, il y a celui qui le peut par personne interposée, non par lui-même. C'est le cas de celui qui ne peut faire le Hajj avec sa propre personne en raison de la maladie et de l'âge, mais il sait qui mandater pour qu'il fasse le pèlerinage en son nom, tandis qu'il a les moyens de financer le Hajj à son mandataire. Dans ce cas, il a l'obligation de donner ce qu'il faut d'argent pour que l'on fasse le Hajj pour lui. Troisièmement, il y a celui qui ne peut faire le Hajj ni par lui-même, ni par personne interposée. Une telle personne n'est pas tenue de faire le pèlerinage tant qu'elle n'a pas les moyens. c'est l'exemple de la personne qui n'a pas suffisamment de quoi payer son hajj, en plus de l'argent qui couvre ses frais et ceux des gens de sa famille dont il a la charge. Il n'est pas tenu non plus d'emprunter pour avoir les moyens d'accomplir le hajj, mais dès que les ressources le permettront, il fera obligatoirement le pèlerinage. Question. Possèdes-tu l'argent suffisant et la capacité physique pour accomplir le hajj? Si oui, tu dois faire le hajj toi-même. Tu ne possèdes pas la capacité physique pour faire le hajj en raison de ta pathologie qui semble incurable ou à cause de ton âge avancé, mais possèdes-tu suffisamment d'argent? Si oui, tu dois fournir à quelqu'un l'argent nécessaire pour qu'il fasse le hajj à ta place, en ton nom. Si tu ne possèdes pas l'argent suffisant pour t'acquitter du hajj, en plus de l'argent qui couvre tes besoins et les besoins de ceux qui sont à ta charge, alors le hajj n'est pas obligatoire en ce qui te concerne et tu n'es pas obligé de récolter l'argent, t'endetter pour le faire. Nécessité de la présence d'un mahram. Pour que le pèlerinage soit obligatoire à la femme, il faut comme condition la présence d'un mahram. Le hajj n'est donc pas exigé de la femme si elle n'est pas accompagnée par un de ses mahrams qui sont son mari ou le proche avec qui elle pourra jamais se marier, comme le père, le grand-père, le fils, le petit-fils, le frère et ses fils, les neveux, l'oncle paternel et l'oncle maternel. Cependant, si la femme a accompli son pèlerinage sans la présence d'un mahram, mais dans des conditions lui garantissant la sécurité, son hajj est alors correct et valide.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd.
Les bienfaits du hajj. Il existe concernant le hajj de nombreux textes citant ses bienfaits et ses avantages, au nombre desquels il y a ceci. Premièrement, il fait partie des meilleures œuvres. En effet, quand on demanda au prophète, paix et salut d'Allah sur lui, quelle œuvre est la meilleure, il répondit, croire à Allah et à son messager. Quand on lui demanda, laquelle ensuite, il répondit, le combat dans le sentier d'Allah, jihad. Et quand enfin on lui demanda, et laquelle ensuite, il répondit, un pèlerinage correctement accompli. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Deuxièmement, c'est une excellente occasion pour obtenir le pardon. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit, celui qui a fait le hajj et s'est abstenu de Rafat, quoi? Prélude amoureux, paroles suggestives, obscénités, etc. et de fousouk, écart de conduite péché, s'en retourne en étant comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie qu'il revient en étant lavé de ses péchés comme s'il venait juste de naître. Troisièmement, c'est une précieuse opportunité pour être affranchi, définitivement délivré de l'enfer. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Il n'y a pas un jour où Allah affranchit autant d'hommes que pendant le jour de Arafat. » Hadith rapporté par Muslim. Quatrièmement, il est récompensé par le paradis. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Le hajj pieusement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Bien sûr, ces récompenses et autres bienfaits ne sont que pour ceux dont l'intention est bonne et sincère, qui sont animés par de bons sentiments et qui se conforment correctement à l'exemple du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Les buts du hajj. Le hajj a des buts et objectifs importants à l'échelle individuelle et au niveau de la société. Voilà pourquoi Allah, qu'il soit exalté, a dit, après avoir parlé de la bête que le pèlerin doit immoler le jour du sacrifice en tant qu'offrande par laquelle on recherche la satisfaction et la proximité d'Allah,
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
Ni leur chair, ni leur sang ne parviendront auprès d'Allah, mais ce qui parviendra jusqu'à lui, c'est la piété qui émane de vous. Verset 37 de la sourate Le Pèlerinage. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « En réalité, la circumambulation autour de la maison sacrée, les allées et venues entre Safa et Marwa et la lapidation des stèles n'ont été prescrites que pour évoquer et mentionner Allah en l'exaltant et proclamant sa louange. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Entre autres buts et objectifs, il y a, premièrement, manifester son humilité et sa soumission à Allah. En effet, le pèlerin s'interdit le luxe et l'élégance, portant les habits rudimentaires sommaires de l'ihram, exposant ainsi à son Seigneur son dénuement. Il se détache des choses matérielles et des occupations de ce monde qui l'empêchent de se consacrer intensément à son maître. À travers cela, il aspire à son pardon et tend à obtenir sa miséricorde. Ensuite, il s'arrête à Arafat, tout son être en recueillement et orienté vers son Seigneur, ne cessant de le louer et de lui exprimer sa profonde gratitude pour ses dons généreux et pour ses faveurs, et aussi le suppliant de lui accorder le pardon de ses fautes et de ses écarts. Deuxièmement, reconnaître les bienfaits. La gratitude se manifeste au travers de l'accomplissement du Hajj de deux manières. La gratitude pour le bienfait de l'argent et la gratitude pour la santé physique, qui sont deux des plus importantes grâces dont l'homme profite en ce monde. À travers le Hajj, l'homme remercie Allah pour ces deux bénédictions, puisqu'il dépense de sa personne et de son argent pour rendre grâce au Seigneur et se rapprocher de lui. Il va sans dire que remercier le donateur pour un don qu'on a reçu de lui est un devoir que la saine raison requiert et que la loi religieuse impose. Troisièmement, le regroupement des musulmans. Lors du Hajj, les musulmans de tous les coins du monde se retrouvent, font connaissance, s'attachent les uns aux autres. Là-bas, les différences entre les gens s'estompent, que ces différences soient dues à la richesse, à la pauvreté, à l'apparence ethnique, à la couleur de peau ou à la langue. Les musulmans s'unissent lors de ce qui est la plus grande assemblée humaine et dont les participants s'accordent autour de la bienfaisance, de la piété, de la recommandation mutuelle à suivre la vérité et à faire preuve de patience, assemblée dont le but sublime est de lier ce monde terrestre au monde céleste, à l'au-delà. Quatrièmement, rappel du jour dernier. À l'occasion du pèlerinage, le musulman se rappelle le jour de la résurrection et de la rencontre avec Allah. En effet, quand le pèlerin abandonne ses vêtements habituels, quand il proclame la talbiya, vêtu de l'habit blanc de l'ihram, quand il stationne sur la grande place de Arafat, quand il voit la multitude tous drapés dans un vêtement identique, ressemblant au linceul blanc, alors à ce moment, en son esprit se bousculent les images des étapes et situations auxquelles le musulman sera confronté après sa mort. Cela a pour effet de l'inciter à s'y préparer à ce jour fatidique et à accumuler les provisions spirituelles avant de rencontrer Allah. Cinquièmement, manifester l'unicité d'Allah et lui vouer par la parole et les actes une adoration exclusive. La formule rituelle caractéristique du Hajj, qui est régulièrement répétée par les pèlerins, et la talbiya, qui concentre en elle l'affirmation de l'unicité divine. Me voici, Seigneur, me voici en réponse à ton appel et par obéissance. Me voici venu à toi, ô toi qui n'as pas d'associé. Me voici venu à toi, la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté, et tu n'as point d'associé. C'est pour cette raison qu'un illustre compagnon a évoqué la talbiya du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, en ces termes. Il a alors prononcé l'expression de l'unicité, rapportée par Muslim. En fait, l'affirmation de l'unicité divine apparaît clairement dans tous les rites, toutes les paroles et tous les actes du Hajj. La Umrah. C'est adorer Allah en se mettant en état d'ihram, en état de sacralité, en pratiquant la circumambulation 7 fois autour de la Kaaba, en faisant 7 fois le trajet entre As-Safa et Al-Marwa, et en se rasant les cheveux ou en les coupant. Sa qualification légale, elle est obligatoire pour ceux qui en ont les moyens au moins une fois dans la vie. Elle est conseillée de la faire plusieurs fois. Son temps, il est possible de la faire tout au long de l'année, mais pendant le Ramadan, sa récompense est multipliée, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit. Une Umrah pendant le Ramadan équivaut à un Hajj. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim.